Et nous lirons les versets 1 jusqu'à 5. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les peuples verront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire et on te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Dans la main du Seigneur, de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, une couronne de fête. On ne t'appellera plus à la ville abandonnée. On ne nommera plus ton pays à la terre dévastée. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. On nommera ta terre la bien mariée. Car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur. Et la terre aura un époux, et oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtit sera pour toi un mari. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie du Seigneur ton Dieu. Un deuxième texte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, versets 1 à 11. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Mais le vin vint à manquer, et la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin !» Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue !» Et la mère de Jésus dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira !» Il y avait là 6 grandes jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. « Remplissez d'eau ces jarres !» Et ils les remplirent à ras-bord. Et Jésus leur dit, « Puisez maintenant de cette eau et allez la faire porter au maître de la fête. » Et c'est ce qu'ils firent. Et le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Et il appela donc le marié et lui dit, « Mais alors, tout le monde commence par offrir le meilleur vin, et puis quand les invités sont ivres, on leur donne le moins bon. » Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin. Voilà le commencement extraordinaire que fit Jésus, le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire aux disciples qui crurent en lui. On ira peut-être un dernier texte plus tard, mais on va s'arrêter déjà à ces deux premiers textes. Récemment, on recevait une jeune fille, une jeune amie à la maison avec Camille, et en discutant un peu avec elle le soir, je lui pose cette question, est-ce que tu es contente de toi? Est-ce que tu es contente de ton chemin de... Elle réfléchit, elle me dit non. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et elle commence à me faire la liste, Je juge les gens, je suis orgueilleuse, je n'arrive pas à changer ça dans ma vie, je ne suis pas assez stable ici. Et elle me fait sa liste comme ça. Je l'écoute et puis je dis, ta liste, je crois que je la connais un peu aussi parce qu'elle ressemble pas mal à la mienne. Mais je lui ai dit, mais Est-ce que tu prends la peine de te tourner vers ce que Dieu fait en toi et vers ce que Dieu a mis en toi? Ou est-ce que tu ne regardes que à ce que toi tu fais de mal? J'aimerais vous faire réfléchir ce matin sur cette question-là. Est-ce que vous vous aimez? Je n'ai pas dit qu'est-ce que vous trouvez génial. Je n'ai pas dit est-ce que vous trouvez sans défaut, parfait. Et est-ce que vous trouvez que vous êtes le meilleur? Sans doute vous connaissez le grand message de l'Évangile qui dit que Dieu en Jésus-Christ s'est sacrifié par amour pour vous afin que vous ne soyez pas condamnés à être chassés loin de lui pour toujours, mais que vous ressuscitiez et viviez éternellement dans son royaume qu'il va établir dans la création tout entière. Et bien si ce n'est pas le cas, sachez-le, Dieu vous aime et il s'est sacrifié en devenant un homme, Jésus, pour pouvoir payer le prix de vos fautes afin de vous offrir gratuitement le salut. C'est donc que Dieu nous aime, n'est-ce pas? Amen. Et peut-être, déjà, j'espère que vous l'aimez en retour. Mais si Dieu vous aime, est-ce que vous vous aimez vous-même? Comme Dieu. Alors revenons d'abord sur ce texte d'Ésaïe. Dieu parle de Jérusalem, la capitale du royaume de Juda, la capitale où il a décidé de faire construire son temple, où il a donné sa présence à son peuple. Et alors, il lui parle comme un amoureux parle à son amoureuse. Ah, mon cœur n'aura pas de repos tant que tu ne paraîtras pas aux yeux de tous comme un flambeau qui brille dans les ténèbres. Tu es au fond du trou, mais je vais tout faire pour t'en sortir et te relever, de sorte que tout le monde voit comme tu es belle et désirable. Jérusalem deviendra la couronne de gloire de l'Éternel, un turban royal. Le pays que personne ne désirait deviendra l'objet de la convoitise de tous. Mais qu'a fait Jérusalem pour recevoir tant d'amour? Qu'est-elle pour être l'objet d'une telle dévotion de la part du Dieu de l'univers? Difficile à dire. Je vous lis un tout petit peu des extraits de ce qu'on peut lire au chapitre 59. Donc là, on est au 62, donc juste un peu avant. Voilà ce que Dieu dit de Jérusalem. Car vous avez du sang sur les mains, vos doigts sont souillés de crime. Quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir ou calomnier. Vous déposez au tribunal des plaintes malhonnêtes, vous plaidez sans loyauté, vous vous appuyez sur des preuves vides, vos arguments sont sans fondement, vous portez en vous le désir de nuire, vous n'accouchez que du malheur, vos projets sont aussi nocifs que des œufs de serpent, celui qui toucherait les mours en mourrait, l'œuf à peine ouvert, il en sort une vipère, les toiles que vous tissez sont des toiles d'araignées, elles ne sont pas destinées à habiller, ni à se couvrir, mais à causer le malheur. Bon. Voilà le peuple à qui Dieu fait cette fougueuse déclaration d'amour que nous avons lue au chapitre 62. D'où vient cette farouche détermination à faire de Sion, nom de la colline de Jérusalem, le joyau de son règne? Il veut s'investir auprès de son peuple pour que son peuple illumine la terre entière de sa sagesse. Et ce que je trouve interpellant, c'est que, à l'entendre, il est sûr de son coup. Non ? Il dit à son prophète, écoute, explique-leur qu'à la fin de l'histoire, ça va se passer comme ça. Sion sera restauré, tout le peuple ira, mais Sion est béni de l'Éternel, quel lieu de sagesse. Il a décidé, je ferai de mon peuple le sujet de ma joie parfaite et éternelle. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un peu incroyable et formidable de se confronter à de telles paroles? On laisse ça un peu en suspens. Okay. On va vers Cana maintenant. Alors, dans le deuxième texte, Jésus est invité à un mariage d'un couple d'amis. Et là, catastrophe, le vin manque. Alors déjà que si on organise un mariage à Vauvert et que le vin manque au repas, on s'en souviendra longtemps. On a pas mal débattu au Noël du cœur s'il fallait 3 verres de vin, 4 verres de vin. Bon. Mais alors, manquer de vin à l'époque de Jésus où le mariage y dure plusieurs jours, vous imaginez le truc quoi. 20 ans plus tard, on parle encore des mariés qui n'avaient plus de vin. Marie prend les choses en main, convaincue que son fiston peut faire quelque chose. Jésus refuse pas de s'impliquer, mais il la remet à sa place. Maman, c'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire. Calmement, gentiment, mais il la recale en fait. Faites ce qu'il vous dit. Marie s'en occupe plus, mais quand même. Et il se lève et il demande à ce qu'on remplisse ces espèces de jarres à ablution. Il y en avait 6 qui contiennent environ 100 litres d'eau chacune. Vous imaginez le truc? Et hop, ça devient du bon vin. 600 litres de bon vin, comme ça. Le maître de cérémonie en reçoit une coupette et voilà qu'il interpelle le marié et dit bah « Alors toi, tu gardes le meilleur pour la fin. Personne fait ça. Personne fait ça. » Comment comprendre ce signe? En fait, il parle de l'espérance qu'il y a en Jésus. Voilà que le vin nouveau est meilleur que l'ancien. Tous vos Verdois se sont interpellés par cette parole. Le vin ancien, normalement, est meilleur que le nouveau. Le vin qui a mûri, qui a vieilli, est meilleur que le nouveau vin. Mais ceci nous parle de ce que Jésus va opérer. Le royaume qui vient est meilleur que l'ancien. L'avenir qui est devant nous en Jésus est meilleur que ce qu'il y a derrière nous. Le miracle des noces de Cana est un signe prophétique d'un renversement des choses. Pour les Juifs qui vivaient à l'époque de Jésus, l'âge d'or était derrière. Ah, du temps de Moïse, ah, du temps de David, quand Dieu habitait encore le temple par sa présence et que nous étions libres et que nous ne vivions pas sous l'occupation grecque ou romaine ou blablabla. Et les pharisiens de dire « Il nous faut revenir aux pratiques d'autrefois parce qu'alors nous étions fidèles à Dieu et alors nous étions libres et blablabla et blablabla. » C'était mieux avant, n'est-ce pas? Et il arrive que parfois, certains de nos aînés se mettent à dire aussi « Ah, de mon temps, n'est-ce pas ?» Et peut-être y a-t-il quelque chose de naturel aussi à ça, où ben voilà, quand on a 75 ans, 80 ans, quand j'étais jeune, je pouvais faire ceci et je pouvais faire cela. Pourtant, dans la foi chrétienne, et ce que Jésus nous apprend, c'est que le meilleur, il est devant, il est à venir. Que vous ayez 5 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, le meilleur, il est devant. De la même manière que le prophète annonce de la part de Dieu à une Jérusalem complètement corrompue, complètement bouchée, qui n'entendait rien, qui ne voyait rien, qui fonçait droit dans le mur. Et Dieu lui dit « Arrête, 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 je vais te déporter, arrête. » Alors qu'Israël est aussi obstiné que ça, Dieu lui dit, mais tu sais quoi? Je vais faire de toi le sujet de ma joie la plus parfaite. Tu seras la couronne de ma gloire. Et là, aux noces de Cana, voilà ce signe prophétique. Le meilleur est devant vous. Est-ce que vous, vous espérez en vous? Non, pardon, je ne vais pas dire ça comme ça, c'est mal dit. Est-ce que vous avez de l'espoir pour vous? Ou est-ce que votre cas est fichu? Êtes-vous un cas désespéré? Ou y a-t-il encore de l'espérance réellement pour vous? Même si vous traînez une situation depuis des dizaines d'années dont vous n'arrivez pas à vous sortir, des pensées qui ne partent pas, des comportements dans lesquels vous retombez perpétuellement. Cette façon d'être avec les autres où on se plaint tout le temps et que j'arrive pas à m'en sortir. Cette vie de prière qui ne décolle pas. Cette implication dans l'église où j'ose pas, où j'essaye, mais j'arrive pas, je persévère pas, je dis oui, mais non. Toutes ces choses-là qui sont récurrentes et qui vous minent, qui vous sapent. Est-ce que vous avez jeté l'éponge ? Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu, non. Mais alors, totalement pas. Totalement pas. Laissez-moi vous lire un dernier texte dans la fameuse épître de Paul aux Romains. Dans le meilleur chapitre de l'épître de Paul aux Romains, qui est peut-être pour moi le meilleur chapitre de la Bible, Romains 8. Romains 8. Verset 28 et suivant. Rémi, il avait deviné. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Je m'arrête tout de suite là. Personnellement, je n'ai absolument pas le sentiment que toute chose concourt à mon bien. J'ai parfois l'impression que des choses m'arrivent, c'est pas du tout pour mon bien. Mais c'est pas ce que dit ce texte. Ah, tu viens de te péter la jambe, mais puisque Dieu t'aime, c'est pour ton bien. Réjouis-toi, rends grâce. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Le texte dit que ceux que Dieu a appelés, a destinés à devenir semblables à son Fils, donc en gros, qu'il y a un moment où vous allez ressembler, vous allez avoir le même caractère que Jésus, d'accord ? Que le fruit de l'esprit, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la miséricorde, d'accord ? Tout ça, ça va être votre l'air que vous respirez. Voilà, vous sentirez ça. Auprès de tout le monde, tout le temps. Voilà. Parce que quand Jésus va revenir, vous serez comme ça. Et bien, ceux que Dieu a destinés à devenir comme ça, et bien, il va prendre toute chose pour les faire devenir comme ça. Ça ne veut pas dire que vous, dans chaque épreuve, vous allez avoir la bonne attitude, avoir la bonne réaction, avoir la bonne posture, la bonne réponse, comme Jésus? Non. Ça veut dire que Dieu va se servir, va utiliser, va récupérer, va convertir tout ce qui vous arrive pour que, au final, et j'ose le dire, malgré vous, vous parveniez à la gloire. On a lu un psaume à l'étude biblique, un psaume absolument génial, le psaume 73. Je vous fais un cours de rattrapage pour ceux qui ne viennent pas à l'étude biblique. Et ce psaume 73, il est génial parce que c'est un prêtre, Asaph, donc encore plus classe qu'un pasteur, c'est un chantre, donc il passe H24 dans la présence, dans le temple, à louer Dieu. Et puis Asaph, il écrit un poème, un psaume, qui va être chanté dans le temple, où il dit « En fait, j'y arrive pas, parce que c'est trop dur, parce que les méchants, ils prospèrent, alors que moi, ma vie, elle est pourrie. » Voilà, il écrit un psaume où il dit ça. « Ma vie, elle est pourrie, alors que eux, ils sont riches, il leur arrive rien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, oui, on va faire ceci, on va dominer, on va écraser, on va piller, on va voler, et bien, il n'y a personne qui les arrête, et je ne comprends pas pourquoi les méchants, ils s'en sortent. » Et il écrit « Je les jalouse. » Et puis, comme on dit chez vous, il roumègue pendant longtemps, comme ça, et puis, à un moment, il dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait, je me sentais percé dans mes reins. » Donc il en est au stade où il somatise. Il a tellement retourné son problème et sa hargne dans son cœur que là, ça lui perce les reins, il somatise, il va vraiment pas bien. Et il dit « J'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. J'étais une brute. » Donc il raconte qu'il était là devant Dieu, hein, en train de cracher son venin, son poison, de « oui, c'est pas juste, et machin, et truc, et là, là. » Et qui était devant Dieu comme une bête sauvage. Et ouais, ce qu'il raconte ensuite, il dit, donc on imagine le prêtre aigri, en train de « tu m'as saisi la main, tu m'as conduit par ton conseil, et puis tu me recevras dans la gloire. » Ou dans les honneurs. Voilà. Donc ce prêtre rouspéteur qui était en train de râler, de dire à quel point c'était pas juste et que lui, il n'avait pas comme les autres, alors que lui, il se purifiait, il se sanctifiait, que ça servait à quoi si on se... Vous voyez le truc? Et bien Dieu, il le prend par la main, il le conduit et il l'emmène dans la gloire. C'est quoi le rapport entre recevoir dans la gloire, et rouspéter, et râler, se plaindre de ce qu'il n'a pas. Ouais, moi non plus, j'en vois pas. Enfin, dans notre mentalité à nous, on n'en voit pas. On se dit, il est complètement ingrat, il ne sait pas se réjouir que Dieu habite dans sa vie, et il convoite la richesse des méchants. Je ne vais pas le recevoir avec les honneurs. Le mec, il est casse-pied, tu vois, ça fait... Si. Dieu, il le prend par la main, il lui explique la vie, et puis il le reçoit avec les honneurs. Donc, vous voyez, c'est rassurant de trouver dans la Bible des psaumes qui racontent ça. Quand j'ai reçu ma vocation pastorale, il me reste 10 minutes... J'étais à Aix-en-Provence et pareil, c'est un temple avec... il n'y a pas les coursiers sur les côtés, mais il y a un balcon au fond. Et tous les étudiants en théologie se mettaient au fond, en haut. Et quand on est un étudiant en théologie, c'est pas compliqué. On a tout compris. Et on se rend compte que les autres, ils n'ont rien compris. Alors c'est très pénible de discuter avec un étudiant en théologie, parce que c'est très orgueilleux. Et alors on était là-haut, et moi je me souviens que je dominais l'église de la rue de la Masse, Aix-en-Provence, et Je voyais ceux qui étaient sur leur téléphone, ceux qui dormaient, ceux qui papotaient, ceux qui chantaient faux, ceux qui... Et j'étais tellement meilleur qu'eux. Seigneur, qu'est-ce que... Et à un moment, le Seigneur me touche avec l'amour qu'il a pour ce peuple. Et en fait, quelque part, il me dit, si tu veux bénéficier de mon amour, il faut que tu fasses partie de ce peuple que j'aime. Et que tu arrêtes de prétendre, de t'illusionner que toi, tu es au-dessus du lot. Hein? On est tous sauvés par grâce, mais quand même, avec moi, le Seigneur, il a fait une bonne affaire. Non. Et l'Église n'est pas devenue belle à mes yeux à ce moment-là. Elle est pleine de problèmes, l'Église. Mais ce qui m'a touché à ce moment-là, c'est la détermination que Dieu a pour son Église à la rendre parfaite. Un projet qui est magnifique et une puissance, une volonté, une force de volonté qui est juste indomptable. Esaïe, c'est des siècles et des siècles, on est à plus de 1000 ans d'écart entre Esaïe et nous aujourd'hui, et déjà là-bas, Dieu dit, je ferai de mon Église le bijou du monde, et je vais le faire. Et ce qui m'a donné véritablement envie de devenir pasteur, c'est cette farouche détermination de Dieu. C'est l'ambition qu'il a pour son Église. Ce n'est pas que l'Église elle est chouette maintenant. Ce qui va y arriver. Parce qu'il n'échoue pas. Et ça a changé mon rapport à moi-même. Ah, on est en chantier. Et la liste de cette jeune fille, l'orgueil, la jalousie, le jugement des autres, je pense qu'on pourrait tous la dresser et on se trouverait tous pénibles et nuls. Mais est-ce que vous savez dresser la liste des perles et des choses que Dieu vous a données, des dons que Dieu vous a donnés, des passions que Dieu vous a données, de toutes ces choses qui aujourd'hui sont peut-être encore des graines dormantes ou des petites plantes qui poussent à côté d'un tuteur, mais qui vont devenir des arbres de vie pour tout le monde. Est-ce que vous êtes passionné par ce que Dieu est en train de faire en vous et de ce que Dieu va faire de vous, plus de parce que vous n'arrivez pas à faire de vos propres forces? Est-ce que vous savez regarder à ce que Dieu travaille en vous et vous en réjouir? Faut que je m'arrête. Dernière. 1 Thessaloniciens 5. C'est la meilleure exhortation quand vous ne savez pas comment terminer un culte. 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, esprit, l'âme, le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on se dit, oh, le boulot. La suite. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. petit temps de silence et de prière libre, si vous voulez méditer, si vous voulez parler. Et puis après, on termine ce culte.